Être comédien, ce n'est pas juste lire des textes. C'est vivre des vies qu'on n'aurait jamais osé vivre. Et ce n'est pas facile. Il y a des jours où j'ai eu faim, où j'ai dormi dans des chambres trop petites pour mes rêves. Alors oui, être comédien, c'est un combat.
Pascal Paradou.
Passé le grand portail de fer rouge, nous voilà dans une salle de répétition, dans l'école internationale d'acteurs et actrices qui vient d'ouvrir ses portes à Dakar, dans le quartier de Anne Belair. École fondée et dirigée par Adama Diop. Bonjour Adama Diop.
Bonjour.
Je vous ai vu au Théâtre de l'Odéon à Paris, dans la cour d'honneur du Palais des Papes aux côtés d'Isabelle Huppert à Avignon, sur la scène de la MC93 à Bobigny avec votre spectacle Fajar. Je vous ai vu jouer Shakespeare, Racine, Tchekhov. Pour faire simple, on va dire que vous êtes l'un des grands acteurs français et vous voici ici au Sénégal à la tête de cette école. Est-ce que c'est un retour aux sources pour vous ?
Déjà, merci beaucoup d'être là, de venir à Dakar et de pousser la porte rouge de l'EIAD. Oui, alors est-ce que c'est un retour aux sources ou est-ce que c'est quelque part retrouver un rêve que j'avais embrassé en quittant mon pays au tout départ, parce que le projet arrive quand même quand j'ai dû partir me former à Montpellier d'abord et ensuite au Conservatoire de Paris, avec toujours ce désir de faire partager mes expériences de formation à mes camarades qui étaient aussi actrices et acteurs que j'avais laissés ici au Sénégal. Donc j'avais très envie, en effet, d'imaginer un lieu où des jeunes gens ne sont pas obligés de faire ce que j'ai fait, de partir de son pays, de quitter les siens pour se former en tant qu'artiste.
Quand vous êtes parti il y a 20 ans à peu près, une école comme celle-ci n'existait pas ?
Non, une école comme ça n'existait pas, c'est pour ça que j'ai dû partir. La dernière génération, je dirais, d'acteurs qui sont formés, c'était mon premier metteur en scène, qui s'appelle Abdelkader Diarra, et c'était presque les derniers acteurs et actrices qui étaient formés professionnellement. Et après ça, il y a eu un grand vide et un grand besoin pour ces jeunes générations-là de se former de manière professionnelle dans des standards internationaux.
Et c'est dans ce contexte, dans cette formation, que vous avez eu envie d'être acteur, que vous saviez que vous aviez imaginer devenir un acteur ?
Eh bien, comme beaucoup de jeunes ici, parfois ça arrive avec le hasard, c'est-à-dire que la première fois que je suis sur une scène, c'est parce que je me retrouve à faire partie d'un festival de théâtre, et donc je me suis retrouvé par hasard très vite sur une scène sans jamais me poser la question vraiment de si c'est le métier que je voulais faire. Et petit à petit, quand ça a été sûr et clair pour moi, il a fallu me former, donc je suis passé par le théâtre universitaire ici à Cheikh Anta avant de me former, on va dire, au conservatoire au Montpellier à Paris.
Et aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez chez ces jeunes gens que vous formez ce désir de vos 20 ans ?
Oui, avec peut-être des combats qui sont plus assumés qu'à mon époque. Je pense que le monde est en marche. Ce matin, ça a été moi extrêmement émouvant de travailler avec la promotion Semben qui vient de rentrer, où d'un coup les questions artistiques, théâtrales sont aussi bousculées par la marche du monde et les combats qui sont à l'extérieur du pays. Donc c'est un mélange de plein de choses. Alors oui, par contre, je reconnais la nécessité d'avoir un lieu professionnalisant où on peut se former quand on désire être artiste.
Alors en effet, j'ai eu le privilège d'assister ce matin à votre session de travail avec la deuxième promotion de l'école qui forme aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Mais il faut dire quand même quelques mots sur le lieu qui abrite cette école, puisque ce fut la maison du sculpteur Ousmane Sow, qui appartient aujourd'hui à sa fille Marina Sow.
C'est un lieu qui est resté longtemps fermé. Et donc ce lieu, il l'avait vraiment pensé pour... pas un musée, c'était pas un musée, c'est vraiment une maison, c'est-à-dire avec des grandes salles où on peut exposer, où bien sûr ses œuvres auraient été ici en résidence, mais pas que, avec des ateliers, avec beaucoup d'espace également pour accueillir des artistes. Donc nous, quand il nous a quittés, ça nous a paru être une évidence que ça allait devenir une école. J'ignore pourquoi. C'était quelqu'un qui était très sensible à la jeunesse. Qui plus est, là, le fait que ça soit une école de cinéma, c'est le rêve, parce que bon, en plus, c'était un passionné du 7e art. Mais moi, j'avais toujours dit que ça serait peut-être une école de design, une école d'architecture, pour l'histoire de cette maison, déjà, puisque toute la grande bâtisse, c'est lui qui l'a pensée, au même titre que ce qu'on a au virage. Les carreaux sont faits avec la matière des œuvres, les murs aussi, intérieur, extérieur. Donc, il y avait quelque chose qui se passait.
C'est un lieu habité pour vous ?
Ah, complètement, totalement, complètement. Cette maison, elle était destinée à accueillir une école et des jeunes. Tout simplement parce qu'on a eu des propositions. Elle a même été mise en vente à un moment donné pendant un long moment avec des touches. Et pourtant, ça ne s'est pas fait. Et ça s'est fait au moment où Adama est arrivé.
Adama Diop, dans la salle de répétition, il y a les deux géants d'Ousmane Sow qu'il a laissés dans cette maison. Ce sont comme des dieux protecteurs, des dieux bienveillants, ou vous les oubliez ?
Je pense que ce n'est pas facile de les oublier, ils sont tellement imposants. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi, peut-être comme des grands sages, comme des grands témoins aussi, peut-être pour nous. C'est une grande inspiration d'être dans cette bâtisse pensée et construite par un artiste comme Ousmane Sow. Et donc, le fait d'avoir ces deux géants-là, c'est presque de nous mettre, avec modestie, à la hauteur de cet homme qui a eu une vision artistique, qui est allé au bout de sa vision artistique. Et c'est, je pense, qu'on essaie de faire aussi dans ce lieu, c'est de se mettre au rendez-vous de nos désirs, au rendez-vous de nos rêves et au rendez-vous de l'écriture nécessaire aujourd'hui au Sénégal, mais surtout le continent africain, parce que je rappelle que nos étudiants ne sont pas que sénégalais, mais ils viennent de partout du continent africain, c'est une école internationale. Et que oui, un visionnaire comme Ousmane Sow ou comme Safi Faye, qui était la marraine de ces deux jeunes artistes qui sont là, ou Ousmane Sembène ou Djibril Diop Mambéty, nous donnent comme ça le chemin d'oser écrire et de penser grand.
En tout cas, ça raconte quelque chose de l'ordre d'une transmission d'un sculpteur au théâtre, au cinéma, etc. Le IAD compte 17 stagiaires pour cette nouvelle promotion. Autant sont déjà sortis de la première promo en décembre dernier, dont Anta Nyang, bonjour.
Bonjour.
Et Damba Keïta, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous raconter ce qui s'est passé ici, dans cette maison, pour vous. Mais d'abord, du hip-hop sénégalais au féminin, avec Maggie, en duo avec Mamie Victory Yewoulen.
Jarbati yusundur baba man ben John
mentale.
Maggie sur RFI avec Mamie Victory. Nous sommes aujourd'hui à Dakar et précisément à l'école internationale d'acteurs et d'actrices qui vient de s'ouvrir grâce à Adama Diop. Alors il faut préciser deux, trois choses. Adama Diop, c'est de la formation continue, mais il y a un projet aussi de faire de la formation initiale.
Tout à fait. Au départ, d'ailleurs, c'était le projet, c'était tout de suite d'aller vers la formation initiale. Sauf que nous nous sommes rendus compte qu'en discutant avec les artistes qui sont ici, que même ceux qui travaillaient n'étaient pas formés en réalité. Et que du coup, nous nous sommes dit, au lieu de tout de suite aller vers de la formation initiale, peut-être que nous pouvons proposer quelque chose qui a à voir avec cinq mois où ceux qui travaillent déjà peuvent venir pendant cinq mois et travailler autour de ces métiers-là et ensuite... En effet, si nous avons l'impression au bout de un an ou deux de nous être occupés des gens qui étaient désireux de se former, qu'on pouvait en effet faire la formation initiale.
Donc 300 candidats à peu près pour chaque promo et en fait peu d'élus, 17, 18, guère plus.
Guerre plus.
La sélection est rude.
La sélection est rude, mais c'est vrai que déjà, ça fait des belles promotions que de s'occuper de 17 personnes pendant 5 mois. Et l'idée quand même, c'est qu'ils puissent traverser une expérience et qu'ils puissent avoir... Donc oui, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des gens qui n'étaient pas pris sur la première promotion le sont là, sur la deuxième. Donc on essaie quand même de donner la chance au maximum de personnes. Et puis c'est le jeu malheureusement des concours. Tout le monde ne peut pas être pris.
Damba Keïta, vous travaillez dans le milieu de la culture, à l'administration ou à la production, mais vous êtes aussi comédien et vous avez fait partie de la première promo. Comment avez-vous ressenti ce besoin de formation ? Est-ce que vous sentiez qu'il vous manquait quelque chose pour être entièrement, totalement comédien ?
Bien sûr. Voyant ce qui se passe un peu partout, on a vraiment senti ce besoin-là d'aller se former, d'aller découvrir de nouvelles expériences pour venir aussi peaufiner ce qu'on avait déjà entamé. Et cette formation nous a permis de dépasser en fait nos limites, nous a permis de découvrir qu'en fait, en dehors de ce que nous faisions, il y a plein de choses à apprendre encore et ça donne envie.
Deux, trois mots, vous avez appris quoi ?
À l'IAD, la diversité des cours, ça faisait que chaque intervenant qui arrive nous donne encore envie de découvrir l'autre qui va venir la semaine prochaine. Ce qui fait que ce qu'on a appris ici, on ne peut pas le dire en trois mots, on peut le dire en mille mots, mais ça finit jamais.
Anta Nyang, vous avez commencé comme amateur dans une série à la télé, puis un court-métrage, et puis vous avez eu de plus en plus envie. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvée à l'EIAD ?
Tout à fait, oui. J'ai commencé à participer à des séries, à des courts-métrages, mais en tant qu'amateur, je ne connaissais pas beaucoup de choses et j'ai senti le besoin d'aller me former et ne pas seulement me suffire à attendre les castings pour postuler et qu'on me prenne.
Et vous formez ici, sans partir à l'autre bout du monde comme Adama Diop a dû le faire.
Oui.
Vous avez appris quoi ici ? C'est un peu la même question, il n'y a pas de recette magique, je sais bien, mais est-ce que quelque chose... Moi, en une matinée, j'ai appris deux, trois choses à Madiop alors que je ne suis pas comédien. Donc vous, en cinq mois, qu'est-ce que vous avez appris ?
Beaucoup de choses. Avoir le contrôle de sa voix, l'écoute de son corps, les jeux corporels. En fait, c'est comme si on nous avait encore agrandi la vision. On voyait grand.
L'intériorité, peut-être aussi ?
Oui.
Adama Diop, ce matin, vous avez commencé la séance en parlant de légitimité et de confiance. C'est ce qui manque aux jeunes comédiens et comédiennes qui vivent ici.
Dans une société, en effet, où être artiste n'est pas rien, ça ne l'est pas déjà dans d'autres pays du monde, mais ici aussi, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix économique, c'est un vrai choix de positionnement par rapport à la famille, parfois. Et donc, oui, arrive pas mal de moments où ces jeunes-là se disent « Mais est-ce que j'ai raison de faire ça ? Pourquoi je fais ça ? Et pourquoi je me mettrais à dos toute une famille ou toute une société ?» Donc, faire de l'art ici, c'est une nécessité. C'est un choix extrêmement puissant. Et donc, oui, c'est toujours intéressant pour moi de questionner ça et de peut-être de dire que finalement... ce sont des questions qui animent des jeunes, mais qui animent aussi même des artistes qui ont plus d'expérience.
Alors dans les promos de l'EIAD, il y a autant de femmes que d'hommes. Ça, c'est absolument indispensable et vital pour vous. Des femmes qui, dans leur prestation, d'ailleurs, parlaient beaucoup ce matin de la place des femmes dans la société sénégalaise et plus largement africaine.
J'ai fait des films, mais je les fais sans apprendre, sans être formée.
Je m'appelle Anna Djaher Tchandou.
Il y a plein de choses à savoir dans ce monde artistique.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, ce matin ?
J'ai appris Déjà, entre hier et aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Autant qu'il te laisse être libre dans ton expression, autant qu'il te guide aussi. C'est ce que je cherche en fait. Quelqu'un qui me guide à canaliser. On a la matière, mais il nous faut quand même une assise. C'est-à-dire quelqu'un qui t'apprend comment tu fais réellement les choses. Voilà.
Être comédienne à Dakar, au Sénégal, comment c'est perçu ?
On va dire, il y a beaucoup de perceptions. Parce qu'il y a beaucoup de différences. Il y en a qui le prennent pour un travail. Mais en généralité, les gens pensent que ce n'est pas un travail. Les gens pensent que c'est un jeu. Que tu pars dans des vacances payées. Ou que tu es en train de jouer ou tu vends ton corps ou quelque chose comme ça. Donc, c'est compliqué.
Anta Niang, est-ce que vous avez rencontré les mêmes préjugés sur votre métier de comédienne ?
Oui, parce que souvent on dit que c'est un métier que pour les hommes et que quand on est femme, on a parfois ces genres de préjugés, un manque de respect qui vient souvent, mais qu'on fait avec parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait qu'on a une place dans ce métier.
Alors, le théâtre n'est jamais séparé de la vie, mais ce matin, quand même, ça a été une session un peu particulière à Dama Diop parce que ça a presque dérivé vers une sorte de psychothérapie de groupe où il était question de patriarcat, de violence faite aux femmes, avec des témoignages de ces jeunes comédiennes qui avaient enduré des violences, des coups, des rejets, des humiliations. Ça vous a surpris ou pas ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que de plus en plus, on se rend compte que les combats qui sont menés dans le monde aujourd'hui, qui sont nécessaires, qui sont importants, se transforment artistiquement. De plus en plus, il y a une jeunesse qui a besoin de passer par l'art pour l'exprimer. Et donc, oui, il y a eu comme une sorte de, non pas de débordement, mais en tout cas un besoin pour les jeunes femmes, mais comme pour les jeunes hommes aussi, d'en parler. Donc, c'est toujours cet équilibre qu'on essaie de trouver entre... donner la possibilité d'avoir un lieu où les gens peuvent s'exprimer et peut-être de se dire qu'un artiste n'est pas juste un exécutant. Il y a toute la partie technique, mais aussi il faut déployer de la pensée pour bien exercer son métier. Donc c'est cet équilibre-là qu'on essaie de faire avec.
Oui, et transformer, c'est ce que vous disiez, hein, transformer les colères ou les luttes en d'expression artistique. Il ne s'agit pas simplement de mettre son cœur ou ses tripes sur la table ou sur la scène, mais il faut trouver le chemin pour l'exprimer, que ça cause à tout le monde ?
Absolument. Disons que moi, c'est pour ça que j'ai monté cette école. C'est la question de l'expression artistique. C'est peut-être une vision d'un théâtre contemporain dans les 5-10 années qui viennent. C'est une écriture scénaristique, théâtrale, qui soit dans un rapport visionnaire. Donc moi, mon intérêt premier, c'est de transformer nos désirs, nos rêves, nos colères en expression artistique. Et c'est ça que nous essayons de faire ici.
Adama Diop, dans votre salle de répétition ce matin, chaque stagiaire jouait une scène. Vous leur aviez demandé de parler d'eux ou de choisir une scène qui les identifiait un petit peu. Donc ils passaient à tour de rôle. Et puis, en quelques phrases, mais sans jamais juger, vous dites deux, trois choses. Comme ça, deux, trois observations. Je ne vais pas dire l'air de rien, mais ce n'est pas un décryptage total de la scène. Ce n'est pas du contrôle. C'est pas, vous n'êtes pas en maître, mais vous êtes celui qui écoute et qui dit deux, trois choses.
Je pense que j'aimerais bien qu'on refasse. Après le grand-père, après les grands-pères, tu sais, une fois qu'ils ont parlé, mais que tu ne t'emportes jamais. Que tu ne cries jamais. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en colère, mais ne t'emporte jamais. Essaie d'exprimer ce que tu ressens de la manière la plus calme possible. Et retiens. Retiens ce que tu ressens. Et vois ce qu'il y a. Ok ?
Ne jamais se laisser piéger par les émotions, c'est le béaba à la Madiop.
Eh bien, j'ai l'impression que parfois, on peut plonger directement dans l'idée qu'on se fait d'une émotion. Or, ce qui parfois je trouve est plus intéressant, c'est quand on ne se laisse pas piéger effectivement par exemple, je suis en colère, donc je me mets à hurler. Et que parfois, on se surprend soi-même, quand on est interprète, à prendre un chemin qui, a priori, n'avait rien à voir avec la colère. Voilà. Et c'est là où je trouve que notre expression peut se développer, peut ouvrir des sens qu'on n'avait pas imaginés au départ. Donc oui, c'est vrai que quand tout de suite je sens que l'expression, la colère, l'énergie, tout est aligné, je dis ok, c'est possible. Et si on essaie complètement autre chose et qu'on s'ouvrait à se découvrir différemment en, voilà, en exprimant les choses. Donc je ne sais pas si c'est le BABM, mais en tout cas je trouve ça toujours intéressant de ne pas aller vers l'évidence en tout cas.
Il ne faut pas surjouer.
Surjouer, oui.
Oui, alors je ne sais pas si c'est du surjeu, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque culture a ses codes théâtraux, et c'est intéressant aussi. Donc je n'appellerais pas ça du surjeu, peut-être que ça s'appellerait comme ça en France. Ici, il y a un code théâtral qui est différent, qui parfois peut ressembler à la Commedia dell'arte, par exemple, ou bien dans certains pays, comme au Japon ou comme la Chine, qui ont un code théâtral plus expressif, ça c'est sûr. Après, moi, partout où je suis, ce qui m'intéresse, c'est non pas la question du jeu ou du surjeu, mais c'est comment les guider pour qu'ils prennent des chemins qu'ils n'osent pas prendre parfois. Voilà. C'est comment juste leur dire, écoutez, vous avez ce chemin-là, mais rendez-vous compte que vous en avez encore plein d'autres à explorer.
Alors, vous parlez de code culturel. J'ai souvenir de Peter Brook, grand metteur en scène anglais, qui a travaillé à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord, et qui a aussi beaucoup travaillé avec des acteurs africains, et notamment avec Sotigui Kouyaté, qui était griot. Il disait de mémoire qu'il y avait une force particulière et une puissance spécifique chez les acteurs nés des cultures africaines. Est-ce que c'est votre avis aussi ?
Eh bien, moi, j'ai du mal à faire globalement des généralités, c'est-à-dire penser un jeu africain, c'est tellement, il y a tellement de pays, de cultures différentes que j'ai tendance à essayer d'être plus spécifique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore une fois des codes d'expression, des codes théâtraux qui sont différents. Moi, je sais que j'ai expérimenté ça quand je suis arrivé en France, où justement on m'a parlé de surjeu. Et moi, je découvrais ce mot-là. Parce que partout, nous, effectivement, quand on jouait, il y a quelque chose qui a à voir avec le placement de la voix, qui a à voir avec la manière dont on s'adresse avec le public. Il y a tout un des jeux, des phrases qu'on se dit, où on se répond avec le public. Le public est très présent dans les représentations théâtrales ici. Donc oui, il y a quelque chose qui a à voir peut-être avec le conte aussi. Quelqu'un qui s'exprime, qui d'un coup prend une foule et qui est peut-être moins dans un... Peut-être qui pourrait penser ici, de ce point de vue-là, peut-être plus cérébral qu'on pourrait imaginer, par exemple, sur le théâtre européen, français spécifiquement, où d'un coup, la question du sous-texte, ces questions-là, on n'est pas tout à fait au même endroit d'expression théâtrale.
Et puis, il y a l'enjeu du corps sur scène, qui n'est pas forcément le même pour un acteur qui vit en France et qui joue en France qu'un acteur qui joue en Afrique. Vous semblez assez d'accord avec cette idée-là.
C'est sûr que l'engagement physique est différent, et c'est pour ça que je pense que je donnais l'exemple de la Commedia dell'arte, qui est vraiment un art très expressif, où l'engagement du corps est très différent. Il y a quelque chose qui s'apparente de ça dans notre expression théâtrale, mais pourtant... Je pense que plusieurs dans votre promotion, c'est la première fois qu'ils faisaient de la danse, non pas dans le sens danser, mais dans le sens travailler pour le théâtre, pour la scène. C'est la première fois qu'ils le faisaient. Donc, ce n'est pas forcément non plus un rapport maîtrisé du corps. C'est juste un engagement différent. Et donc, il est intéressant de se rendre compte de ça et de travailler.
Avec parfois des conseils signés Adam Adiop qui vont à l'inverse de ce que vous venez de dire.
un conseil. Quand vous n'avez pas besoin de bouger au plateau, quand ce n'est pas une nécessité, ne bougez pas. Parce qu'en fait, dès que vous commencez à... Et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ancré. Je vais beaucoup vous embêter là-dessus. Sur parfois, juste, vous pouvez perdre beaucoup d'ancrage, de puissance, par le fait que vous bougez et que... Voilà. Non, s'il n'y a pas besoin de bouger, là on se parle, j'ai pas besoin de bouger. Là. Tu m'entends ? Par contre, je veux te dire quelque chose, je vais m'approcher de toi, parce que j'ai une intention, je viens vraiment près de toi pour te dire quelque chose. Là, il y a une vraie direction, il y a une vraie intention. S'il n'y a pas d'intention, bouge pas.
Adam Adiop, bouger ou ne pas bouger ?
Telle est la question. Bouger quand il le faut, bouger quand c'est nécessaire, parler quand c'est nécessaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant quand le mouvement et la parole devient une nécessité. Du coup, dès lors, son émission devient quelque chose tellement puissant qu'on ne peut plus le retenir en soi. Et donc, dès lors, il y a quelque chose, je pense, qui peut se dégager de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse peut-être, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que le geste artistique a à voir avec ça, globalement. C'est quelque chose qu'on n'arrive plus à retenir, qu'on a besoin de poser sur une scène, dans une scène de cinéma. Et on a besoin de réfléchir, dans tous les sens du terme, ce que nous avons à l'intérieur de nous, à d'autres personnes qui regardent.
Et puis, écoutez, très important dans votre pédagogie, Adama Diop, écoutez l'autre.
Surtout, écoutez. C'est la question que je posais ce matin. En effet, je leur demandais, est-ce que finalement l'interprétation, entre guillemets, d'un personnage ne passait pas par l'autre d'abord, avant de penser que ça part de nous et qu'en réalité, c'est un des arts les plus populaires et les plus... comment je pourrais dire ça ? Le théâtre, c'est pour moi, c'est le cinéma, tu me diras, c'est pareil, c'est un travail vraiment d'équipe, quoi. Et qu'en effet, quand on est dans l'observation du pur présent de l'autre, non pas de soi, mais de l'autre, aussi de soi, bien sûr, eh bien, je pense qu'on peut d'un coup se découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prémédité. Et c'est là où je trouve passionnant notre métier, c'est qu'au lieu de penser que tout nous échoit, que tout doit partir de nous, eh bien non, je pense que parfois ça part de l'autre, ça part de tout un tas de choses qui fait que d'un coup, on est... voilà, il y a un bout de texte que j'écris dans Fadiar où je dis « nous sommes des miroirs marchands ». Je pense que ça parle aussi de ça, que nous ne sommes que des surfaces souvent de réflexion et que, par contre, c'est cette interaction qui petit à petit révèle quelque chose ensemble.
Et être pédagogue, transmettre, cela donne du plaisir, ça donne de la joie.
Oui, je dirais même plus, ça donne du sens. Ma première expérience, alors en tournée, j'ai déjà fait des sortes de masterclass de quelques heures ou d'un ou deux jours. Mais la première expérience que j'ai eue, c'était à Saint-Étienne pendant un mois où on m'a proposé d'animer un atelier pendant un mois. Je me suis dit, mais je suis incapable de faire ça. Je suis pas professeur, je suis acteur. Donc je ne peux pas faire ça. Mais je me suis quand même forcé. Je me suis dit, bon, ben, essayons. Eh bien, ça a été riche d'enseignements parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je formule des choses que je ne m'étais jamais formulées en tant qu'artiste. Et du coup, je suis reparti de cet atelier d'un mois en me disant « Ok, c'est intéressant ». Et même, je pense que mon rapport au plateau a changé un peu. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas professeur, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas faire ça. Par contre, partager mon expérience, écouter les autres, les regarder bouger, les regarder faire, entendre comment ces générations, génération après génération, appréhendent le monde, appréhendent l'art, ça, je trouve que ça nous met dans un endroit toujours de renouvellement parce que parfois, le risque, c'est de dire « Ah, c'était mieux avant. Maintenant, c'est plus pareil. » Et je pense que le fait d'être au contact des jeunes nous remet aussi en question et puis c'est un partage que je trouve passionnant.
Et concilier vos engagements artistiques et cet engagement dans l'école ?
C'est pas simple.
C'est du rock'n'roll ?
C'est du rock'n'roll, vraiment. C'est du rock'n'roll. Alors, j'ai dû faire des choix. Hein. J'ai refusé pas mal de projets il y a un an. Et puis, pour la suite, pour me consacrer à la pédagogie, je suis professeur au conservatoire à Paris aussi. J'ai mes projets artistiques en tant que metteur en scène. Et c'est vrai que ma vie a un peu basculé il y a 6 mois quand nous avons eu ce lieu. Où d'un coup, même voilà, aujourd'hui, je cours un peu derrière ce que je devais faire. Donc voilà, c'est un savant équilibre à trouver et j'espère que je vais y arriver.
Merci Adama Diop, merci Anta Nyang et Damba Keïta. Vous êtes donc la relève, si j'ai bien compris. Et longue vie à l'EIAD, qui est une question réelle d'ailleurs. Hein. C'est une question financière assez cruciale, comme tous les lieux de culture. Il faut des gens qui financent.
Tout à fait. Alors, on a eu la chance d'avoir un premier financement qui nous a permis d'avoir ce lieu, qui nous a permis d'inviter des professeurs, des artistes et de faire 2 promotions. Mais en effet, tous les enjeux d'un lieu comme celui-là, c'est d'avoir les financements pour avoir une pérennité qui nous amène à proposer des formations dans les années qui viennent. Et j'espère que voilà, c'est un lieu qui est important pour les jeunes, je crois, ici au Sénégal et dans le Condon. Donc, j'espère qu'il va continuer à exister.
J'espère aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Pascal Paradou à la présentation, programmation, Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Merci à vous et à la semaine prochaine, toujours au Sénégal.